OK, nous allons aller dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, et versets 12 à 22. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 12 à 22. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit, et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Alors, j'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui, Les limites de la sagesse humaine. Alors, on va regarder trois idées à l'intérieur de notre passage. On va regarder les limites de la sagesse humaine exprimées dans les versets 12 et 13. Et on va regarder également les limites de la sagesse humaine expérimentée du verset 14 au verset 17. Et on va regarder aussi la dernière idée, les limites de la sagesse humaine extensionnée, verset 18 à 22. On va faire un bref retour sur l'étude qu'on a faite la semaine dernière, soit Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 11. Salomon avait énuméré les événements et les activités de la vie, dont chacun a son temps et sa saison sous le ciel. À la fin, Salomon opposait le point de vue humain au point de vue céleste. Du point de vue de la sagesse humaine, demanda Salomon, comme il l'avait fait plus tôt dans le livre, que gagne l'ouvrier à son labeur? Puis il nota, j'ai vu le fardeau que Dieu a imposé aux hommes. Mais du point de vue céleste, Salomon a noté, il a tout rendu beau en son temps. Autrement dit, il vient t'expliquer que Dieu, tous les événements qui nous arrivent, ont un but, sont pleins de sagesse, et il a rendu tout beau en son temps. Alors, on voit les deux aspects. Salomon va poursuivre en disant, dans le verset 11, « Il a aussi mis l'éternité dans le cœur des hommes. Dieu a donné aux hommes des capacités de raisonnement bien au-delà de celles de toute créature sur terre. L'homme a la capacité de regarder au-delà de la corvée des activités individuelles dans la vie et d'en déduire qu'il y a un but principal à ce qui se passe. Cette éternité dans son cœur donne à l'homme un désir profondément enraciné, un désir compulsif qui le conduit, parce que l'homme est fait à l'image de Dieu, et qui le conduit à apprécier la beauté de la création. On pourrait dire que c'est sur le plan esthétique. Aussi, à connaître le caractère, la composition et le sens du monde. Donc, ce serait sur le plan académique et philosophique. et aussi de discerner son but et son destin. Donc là, on rentre en plein théologique. Bien que nous ayons le sentiment qu'il existe un but éternel, nous, dans notre état déchu, ne pouvons pas sonder le fonctionnement de Dieu et nous ne pouvons tirer avantage des capacités de raisonnement qui nous ont été données. Malgré l'éternité dans nos cœurs, nous ne sommes toujours pas capables de comprendre dans toute leur beauté les grands projets et objectifs de Dieu. Bien que nous ne puissions pas pleinement comprendre ses desseins, nous pouvons avoir toujours la foi qu'il est en contrôle et qu'il accomplira ses buts. Une telle foi peut et doit conduire au contentement dans la vie. Donc, on va reprendre les versets 12 et 13 et on va développer la première idée qu'on avait dit, les limites de la sagesse humaine exprimées. Donc, on lit dans le verset 12, « J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour les hommes que de se réjouir et de bien faire pendant leur vie. Et même que chacun mange et boit et jouisse du bien-être au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. » Donc, on va regarder là-dedans que Dieu enseigne de trois façons. Il enseigne scripturairement, il enseigne répétitivement et il enseigne expérimentalement. Donc, on reprend l'Écriture. Dans les Saintes Écritures, le Seigneur utilise souvent plusieurs versets et parfois dans plusieurs livres pour marteler une vérité. Nous connaissons tous la force de la répétition, par exemple dans l'éducation de nos enfants, dans la publicité et dans la formation en général, et pour favoriser la compréhension et la mémorisation. Donc, il faut se rendre compte que Dieu utilise ce qu'il y a dans les Écritures pour nous enseigner. Excusez. Regardons Ecclésiaste chapitre 2, verset 24. « Ne vaut-il pas mieux pour l'homme manger et boire et faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail? J'ai vu aussi que cela vient de la main de Dieu. » Donc, c'est important de réaliser que Dieu nous enseigne avec les Écritures. Aussi, il nous enseigne par la répétition. Par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 8, on lit « Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Un peu, regardez 1 Timothée aussi, chapitre 6, verset 17. « Recommande aux riches du présent siècle de n'être point orgueilleux et de ne point mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir, de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, prompt à donner, faisant part de leurs biens. » Donc, à quelque part, quand on dit répétitivement, l'ensemble des idées qui sont développées dans le livre de l'Ecclésiaste, là, j'en ai donné deux versets, deux passages, mais on pourrait allonger la liste beaucoup. Là. Donc, quand on dit la répétition, il y a plusieurs choses dans les Saintes Écritures qui sont répétées avec des mots différents, mais des fois, l'idée fondamentale est à peu près la même. Donc, Dieu enseigne aussi par la répétition, un peu comme nous, quand on a parlé tantôt, qu'on le fait dans l'éducation de nos enfants, la publicité le fait, et quand on est formé à quelque chose, il n'y a rien comme la répétition pour nous faire entrer une idée de façon définitive dans le cerveau. Et on a dit que Dieu enseignait scripturairement, répétitivement, mais aussi expérimentalement. Dans Actes 20, dans le verset 34 et 35, « Et vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'en travaillant qu'il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On a tous expérimenté la satisfaction qui est apportée par le travail bien fait et le travail honnête. Donc, à quelque part, dans les limites de la sagesse humaine, il faut reconnaître que Dieu, à travers toutes nos erreurs, tous nos faux, nos cheminements qui sont un peu erronés des fois, Dieu utilise les Écritures, Dieu utilise la répétition et Dieu utilise aussi l'expérience pour nous montrer des choses. Et deuxième idée qu'il y a dans le passage du verset 12 et 13, c'est que Dieu circonscrit les limites de la satisfaction humaine. Autrement dit, Dieu vient nous enseigner là où on peut trouver de la satisfaction humaine et là où on n'en trouvera pas. Circonscrire, ça veut dire nous montrer les choses. Alors, c'est le Seigneur qui détermine les sphères dans lesquelles l'homme peut trouver sa satisfaction. Et cette sphère-là comprend les choses suivantes. Comme ça le dit dans le verset, faire le bien, se contenter du manger et du boire, mais de faire aussi d'une façon, qu'on pourrait dire, biblique. Et aussi, le travail honnête et bien accompli. Alors, le Seigneur il dit que tes sources de satisfaction vont se trouver dans ces choses-là. Circonscrit, ça veut dire, cherche pas ailleurs, par d'autres moyens, tu n'y arriveras pas. Et la troisième idée qu'il y a dans le verset 12 et 13, c'est vraiment que le don de Dieu se doit d'être discerné dans sa juste perspective. Autrement dit, toutes les choses qui ont été nommées, il faut voir que ça vient, c'est un don de l'Éternel, un don de Dieu. L'homme doit reconnaître que toutes ces choses sont un don de Dieu. Pour bien les faire, il doit toujours les accomplir avec certaines idées à l'esprit qui nous sont enseignées dans différents versets du Nouveau Testament. Donc, à l'intérieur de ce qui est circonscrit par le Seigneur, on se doit de le faire d'une certaine façon. On se doit de le faire d'abord pour la gloire de Dieu, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, dans les limites circonscrites par le Seigneur, on se doit d'agir toujours avec ces choses-là, avec l'enseignement du Nouveau Testament. Autre chose qu'on se doit de faire, dans les choses circonscrites par le Seigneur lui-même, c'est de continuer à le faire sans se lasser. Galates chapitre 6, versets 9 et 10. « Ne nous lançons point de faire le bien, car nous moissonnerons dans la saison convenable si nous ne nous relâchons pas. » C'est pourquoi, pendant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. Donc, on doit les accomplir pour la gloire de Dieu, sans se lasser, et aussi pour le Seigneur, en considérant l'héritage que nous recevrons en récompense. Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez Christ le Seigneur. Combien on oublie, je dirais, si on ferait tout dans notre vie, on parle de manger, de boire, d'agir, faire du bien aux frères, faire du bien à ceux qui ne sont pas des frères, pour la gloire de Dieu sans se lasser, en considérant l'héritage qu'on va recevoir, puis de ne pas faire les choses premièrement de bon cœur. Combien de choses on fait, des fois on n'aime pas faire la vaisselle. Mais si on la ferait de bon cœur, en considérant qu'on ne le fait pas pour les hommes, on le fait pour Dieu, ça changerait toute notre perspective. Alors c'est vraiment des leçons très importantes pour nous à appliquer dans notre vie de tous les jours. Et en plus, il nous dit de le faire de bon cœur, mais comme pour le Seigneur et non pour les hommes, et en plus, en reconnaissant, en méditant sur le fait qu'on va recevoir du Seigneur la récompense de l'héritage. parce qu'il dit « Vous servez Christ le Seigneur ». La deuxième point qu'on va regarder, c'est les limites de la sagesse humaine expérimentée, versets 14 à 17. Alors, comment on va connaître les limites de la sagesse humaine? Ça va être par l'expérience, a-t-on dit, expérimentée. D'abord, on va reconnaître la sagesse humaine par l'immuabilité du décret divin, versets 14 et 15. Là, il nous dit, dans le verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu le fait afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, ce qui est ce qui doit être a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » Donc, il faut se souvenir que les décisions du conseil de Dieu, autrement dit, son décret, subsisteront à toujours. Autrement dit, les décisions que Dieu a prises dans l'éternité concernant ce que les hommes vivraient sur la terre et d'une façon particulière pour ses enfants. On a vu la semaine dernière, il y a un temps pour ci, il y a un temps pour ça, il y a un temps pour ça. Il y avait 14 pères, il y avait 28 il y a un temps. C'est des choses que Dieu a décrétées de toute éternité concernant ce que nous allons vivre sur la terre dans les moindres détails. Et ça comprenait toutes choses. Alors, les pensées du cœur de Dieu ne changeront jamais parce qu'elles sont parfaites et sages. Regardons quelques versets là-dessus pour nous rappeler et pour nous marteler cette idée-là dans la tête parce qu'on est souvent porté à l'oublier. Psaume 33, verset 11. « Mais le conseil de l'Éternel subsiste à toujours. Les desseins de son cœur durent d'âge en âge. » Quand on parle du conseil de l'Éternel, on parle de ses décrets. Proverbes, chapitre 19, verset 21. « Il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel est immuable. » Immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Proverbes, chapitre 21, verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister à l'Éternel. Et un beau verset aussi dans Ésaïe, chapitre 46, verset 10, où le Seigneur dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. » Alors, la première idée, les limites de la sagesse humaine expérimentée, c'est qu'à un moment donné, on vient qu'on comprend les versets et la doctrine de l'immuabilité du décret de Dieu. Aussi, on peut le savoir par l'observation des imperfections de la justice humaine. Lorsqu'on regarde autour de nous et qu'on écoute les nouvelles à la télévision, qu'on les lit dans les journaux, ou peu importe la manière dont on les apprend, on voit que dans les choses de la justice humaine, il y a beaucoup d'imperfections. Il dit dans le verset 16, « J'ai vu encore sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. » Dans sa grande sagesse, Salomon avait observé que les cours de justice de l'homme, où siègent les juges et où les causes sont portées devant eux, et sont entendues et jugées, la méchanceté se manifestait là. Des juges méchants siégeaient là, et des méchancetés étaient commises par eux, au lieu de rendre justice, ils l'ont perverti. Ils ont condamné les justes, et ils ont acquitté les méchants. Ils ont opprimé la veuve, l'orphelin et l'étranger, dont la cause était juste, et ils auraient dû les défendre. Donc, c'est de voir que les décrets de Dieu vont tenir. L'homme ne peut pas résister aux décisions divines concernant les choses qui vont nous arriver dans la vie. Et aussi, on voit très bien les limites de la sagesse humaine lorsqu'on regarde comment la justice humaine est administrée autour de nous. Et la troisième idée de ce passage-là, c'est aussi, verset 17, par le délai accordé par Dieu dans le jugement du mal. Ça c'est rendu aujourd'hui, on regarde, il y a plusieurs versets qui nous disent aussi que l'homme, vu qu'il ne voit pas que Dieu intervient directement pour punir le mal, il s'imagine erronément que Dieu n'existe pas et qu'il ne passera pas en justice, qu'il ne paiera pas, il n'aura pas la juste rétribution pour ses pensées, ses actions, ses paroles. Verset 17 dit « Et j'ai dit dans mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour tout dessein et pour toute œuvre. » Alors, les Écritures nous enseignent de façon très claire que Dieu a l'air, quand on regarde tout de l'extérieur, les hommes pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, puis qu'ils ne rendront pas compte et qu'ils ne seront pas punis pour leurs mauvaises choses. Il n'y aura pas de rétribution. Les hommes pensent ça. Le temps du jugement du juste et du méchant a été fixé par le Seigneur lui-même et il s'accomplira. Regardons par exemple un verset dans Genèse 18, verset 25. Il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras pas. Celui qui juge toute la terre, ne fera-t-il point justice? Alors, c'est une justice qui est différée, mais c'est une justice qui s'accomplira. On a aussi 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard. Mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. 2 autres passages qui parlent que le délai accordé, il y a un délai qui est accordé, mais qu'éventuellement, les choses seront jugées adéquatement et sagement et justement. Et Dieu, chapitre 18, versets 7 et 8. Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il diffère sa vengeance? Je vous l'ai dit qu'il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et dernier passage, Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Troisième idée qu'on va regarder, c'est celle de la sagesse, les limites de la sagesse humaine extensionnée. Extensionnée, ça veut dire qu'après toutes les considérations qu'il a eues, il voit qu'il y a d'autres choses aussi à considérer. Car ce qu'il dit dans le verset 21... Ah, lui, ici, c'est 18 à 22, en tout cas. OK, on va... à partir du verset 18, où il nous dit, « J'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouvera et qu'eux-mêmes verraient qu'ils sont que des bêtes. » Donc, il va y avoir l'extension par l'instruction divine, par la prise de conscience de certaines choses et par la désillusion, versets 18 à 20. Par exemple, l'instruction divine, verset 18a, donc la première partie du verset 18, lorsque Salomon dit « J'ai dit en mon cœur au sujet des hommes que Dieu les éprouverait. » Donc, une épreuve, c'est une instruction divine. Lorsque l'homme fait de mauvais choix et poursuit des mauvaises voies dans la vie, le Seigneur a ordonné la séquence des choses d'une manière pédagogique pour faire réaliser les erreurs de parcours et de destination. Comme on dit souvent, la souffrance enseigne. Donc, aussi par prise de conscience, donc le Seigneur instruit, le Seigneur aussi nous fait prendre conscience. Et il dit dans le verset 18b, « Et qu'ils verraient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. » Donc, l'homme va prendre conscience qu'il y a beaucoup de ressemblances entre lui et la bête. L'homme qui refuse d'être guidé par la volonté divine, telle que révélée dans les Saintes Écritures, de s'y conformer, et qui s'acharne à poursuivre ses voies charnelles, arrive à prendre douloureusement conscience de son côté bête ou bestial. Et donc, le verset 19 et 20, c'est par désillusion. Donc, autrement dit, l'instruction s'est extensionnée par le fait que Dieu va t'instruire, Dieu va t'éprouver, Dieu va te faire prendre conscience, et Dieu va aussi t'enlever tes illusions. Versets 19 et 20. Là, il dit dans 19, « Car l'accident qui arrive aux hommes et l'accident qui arrive aux bêtes est un même accident. Telle qu'est la mort de l'un, telle est la mort de l'autre. Ils ont tous un même souffle, et l'homme n'a nul avantage sur la bête, car tout est vanité. Tout va en un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne dans la poussière. » Donc, l'homme va se rendre compte, à fin de compte, lorsqu'il observe les choses et qu'il suit sa mauvaise voie, il va se rendre compte qu'il est mortel, comme les bêtes. Il va se rendre compte aussi qu'il va retourner à la poussière, comme les bêtes. Qu'il se fasse incinérer ou qu'il se fasse enterrer, il va se ramasser en poussière aussi. Et aussi, il va prendre conscience qu'il a la tendance à oublier, qu'il a une supériorité sur les bêtes. Malgré le texte, on va expliquer un peu toute cette affaire-là. Alors, illustrons nos propos par cette citation que l'on attribue à l'empereur français Napoléon Bonaparte, un peu avant de mourir, selon des témoins de sa cour à l'île Sainte-Hélène. C'est assez intéressant parce que on sait que c'est un homme qui a vraiment conquis des pays, il était vraiment très puissant à une époque, mais on sait comment il a terminé, il a mal terminé. Et on attribue les paroles qu'on va lire là, à sa personne un peu avant qu'il décède, selon des témoins qui auraient entendu ça, parce qu'il y avait une petite partie de sa cour qui avait été envoyée sur l'île Sainte-Hélène de manière à ce qu'il ne nuise plus en faisant des guerres en Europe. Alors voici ce que Napoléon Bonaparte disait. « Je connais les hommes, et je vous le dis, Jésus n'est pas un homme. » Ce qu'il voulait dire, probablement, il n'est pas un homme comme les autres. Il était l'homme-Dieu. Il nous ordonne de croire et ne donne aucune autre raison que sa parole redoutable lorsqu'il a dit « Je suis Dieu ». Il parle avec autorité. Sa religion est un mystère, mais elle subsiste par sa propre puissance. Il recherche et exige absolument l'amour des hommes. La chose du monde la plus difficile à obtenir. Alexandre le Grand, César, Hannibal ont conquis le monde, mais n'avaient pas d'amis. Je suis moi-même peut-être la seule personne de mon temps qui aime Alexandre, César, Hannibal, Charlemagne, qui, comme moi, ont fondé des empires. Mais fondé sur quoi? La force. Jésus a fondé son empire sur l'amour. Et à cette heure, des millions mourraient pour lui. J'ai moi-même inspiré à des multitudes une telle affection qu'elles mourraient pour lui, pour moi, c'est-à-dire. Mais ma présence était nécessaire. Maintenant que je suis à Sainte-Hélène, où sont mes amis? Je suis oublié, bientôt de retour à la terre et de devenir une nourriture pour les vers. Quel abîme entre ma misère et le royaume éternel du Christ, qui est proclamé, aimé, adoré et qui s'étend sur toute la terre. Je vous le dis, la mort de Christ est la mort d'un Dieu. Je vous le dis, Jésus-Christ est Dieu. Cet homme respecte votre dignité. Il ne vous forcera jamais à devenir son disciple, mais il vous aime et il vous demande de l'imiter, de l'inviter, c'est-à-dire, à être le Seigneur de votre vie. Excusez. Il vous laisse décider. Napoléon Bonaparte, alors, ceux qui vont télécharger les notes vont voir l'endroit où j'ai pris ça sur Internet, qui peuvent aller vérifier par eux-mêmes. Alors, regardons aussi un groupe de versets dans le psaume 49 qui vient nous rappeler la vérité de tout ce qu'on vient de nommer là. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Il n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui ne reverront jamais la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Donc, il y a la première extension. La deuxième extension, c'est l'extension par l'interrogation ultime. Autrement dit, une interrogation ultime, c'est une grande question que tu te poses après avoir tout observé de la vie avec toutes les expériences que Salomon avait vécues. Là, il dit, son interrogation, c'est « Qui sait si le fils si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas? » Autrement dit, il regarde, il pense que l'homme n'a pas grand avantage sur la bête, puis il dit « Qui peut savoir si l'un monte en l'eau puis l'autre descend dans la terre? » Le grand théologien et pasteur anglais, Charles Bridges, qui a vécu de 1794 à 1869, a écrit un commentaire brillant sur ce passage dans son ouvrage « Exposition of the Book of Ecclesiastes », autrement dit l'exposition du livre de l'Ecclésiaste. Alors, je vous le lis parce que c'était une traduction par Google, je l'ai pris en anglais, je l'ai fait traduire par Google et je l'ai révisé ensuite. Bien, il dit, bien qu'il n'y ait pas de prééminence animale de l'homme au-dessus de la bête, mais vaste en effet la différence quant à leurs esprits. L'un monte vers le Père des esprits, retournant au Dieu qui l'a donné. On a ces versets-là dans Hébreux 12, versets 7 et verset 9. Il dit, l'autre va vers la terre, il meurt avec le corps et périt pour toujours. Il ne faut pas passer à côté de cette preuve évidente de l'immortalité de l'âme. L'esprit même des méchants va vers le haut. Il apparaît en présence du grand juge de tous, qui, bien que remplissant ciel et terre par sa présence, a préparé son trône dans les cieux. Voici notre vive espérance, pas comme les faibles rayons scintillants du nuage païen sombre, mais seulement la vie, mais l'immortalité est mise en lumière par l'Évangile. Combien peu le réalisent. Jésus se révèle comme le Fils de Dieu, le divin Rédempteur, l'espérance des pécheurs. Croyez en lui, vivez pour lui. Ainsi, posséderez-vous le vrai bonheur et la vraie félicité. Quand ta partie mortelle descendra dans la poussière, ton esprit, remis entre les mains de Dieu, ton Sauveur, s'élèvera à la perfection de la pureté et du bonheur. Autre extension, c'est la résignation de la part et de la sphère que Dieu te donne. Autrement dit, il faut que l'homme réalise qu'est-ce que Dieu lui a donné et qu'est-ce qu'il ne peut pas dépasser. Et il dit dans le verset 22, « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, puisque c'est là sa part. Car qui le ramènera pour voir ce qui sera après lui? » Alors, dans la première partie, le verset 22a, le Seigneur veut que nous demeurions dans la sphère qu'il nous a confiée. Trouver son plaisir légitime dans le boire et le manger, dans la satisfaction apportée par le travail honnête, et aussi faire usage de ses richesses, de son pouvoir et de son autorité pour son propre bien, le bien de sa famille pour le présent et le bien de ses semblables. Se réjouir de ses œuvres. Et quand le verset 22b, quand ça dit « Qui le ramènera pour voir ce qui sera après lui? » Son argument, autrement dit, se tourne maintenant vers l'avenir dans cette vie. Utilisez le présent, car vous ne pouvez pas être sûr de l'avenir. C'est là son exhortation. Alors il dit, dans Ecclésiaste chapitre 6, verset 12, « Qui peut dire à un homme ce qui sera après lui sous le soleil? » Ou l'expression « sous le soleil » indique qu'il s'agit de la vie terrestre et non de l'existence après la mort. L'ignorance de l'avenir est un sujet très courant tout au long du livre, mais c'est la perspective terrestre qui est en jeu. Il y aurait peu de force à souligner l'impuissance des efforts de l'homme vers leur propre bonheur, par la considération de leur ignorance de ce qui peut arriver quand ils ne seront plus. Il y a des injustices et des anomalies dans la vie des hommes et dans le cours des événements de ce monde que l'homme ne peut contrôler ou modifier. Ceux-ci pourront être redressés et compensés, mais par la suite. En attendant, le bonheur de l'homme est de tirer le meilleur profit du présent et de jouir allègrement de ce que la Providence offre, sans souci anxieux de l'avenir. Alors, on va regarder trois applications de l'étude de ce texte-là. La première, je dirais que Dieu est un merveilleux pédagogue. Il enseigne par les Saintes Écritures, par la répétition et par les expériences de sa Providence. Aussi, il circonscrit clairement les limites permises de la satisfaction humaine. Faire le bien, le manger, le boire, le travail honnête et bien accompli. Le don de Dieu doit être discerné dans sa juste perspective pour la gloire de Dieu et le faire sans se lasser et aussi en se rappelant l'héritage qu'il recevra en récompense. Deuxième application, Dieu permet que nous expérimentions les limites de la sagesse humaine en considérant que tout a été décrété par lui. Aussi par l'observation des imperfections de la justice humaine et aussi en comprenant que le délai accordé par Dieu dans le jugement du mal n'est que reporté plus tard et qu'il va un jour s'accomplir. Troisièmement, le Seigneur nous instruit par l'épreuve et la désillusion de nos chimères. Il nous montre que l'homme sans Dieu ressemble à la bête et qu'il retournera à la poussière. Son espérance repose exclusivement sur la foi au Rédempteur, la glorieuse personne de Jésus-Christ. Que notre grand Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.